Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 12 décembre 2014. Il est 6h temps universel. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition,
un infirmier américain exposé au virus Ebola en Sierra Leone a été admis hier dans une clinique des Instituts nationaux de la santé près de Washington.
Ban Ki-moon a nommé jeudi le Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed à la tête de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola.
Au Nigeria, Muhammadu Buhari sera le candidat principal du parti d'opposition face au président sortant Goodluck Jonathan à la présidentielle de février 2015.
Le directeur de l'agence américaine de renseignement, la CIA, John Brennan, a reconnu hier que certains de ses agents avaient utilisé des méthodes d'interrogatoire répugnantes après le 11 septembre 2001. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Et en fin d'émission, la musique de Roger Muntu. Pour l'instant, le journal. Un infirmier américain qui a été exposé au virus Ebola pendant qu'il était bénévole en Sierra Leone a été admis dans une clinique des Instituts nationaux de la santé près de Washington, D.C.
Selon le NIH, l'infirmier n'a pas testé positif, mais il a été rapatrié aux États-Unis à bord d'un vol spécial et admis à la clinique jeudi après-midi. Rien n'a été révélé sur son identité, son état de santé ou son affiliation professionnelle.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé jeudi le Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed à la tête de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Ismaël Ould Cheikh Ahmed succédera à partir de janvier à l'Américain Anthony Brandbury, a indiqué l'ONU dans un communiqué.
M. Ould Cheikh Ahmed travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur de l'ONU pour la lutte contre le virus Ebola, le Dr David Nabarro, ainsi qu'avec les gouvernements des pays touchés en Afrique de l'Ouest. Âgé de 54 ans, il est actuellement numéro 2 de la mission de l'ONU en Libye, après avoir occupé divers postes dans des agences onusiennes, dont l'UNICEF en Syrie et au Yémen, ainsi qu'à Nairobi et en Géorgie, rappelle l'AFP.
Au Nigeria, Muhammadu Buhari a été choisi hier par le principal parti d'opposition pour affronter le président sortant Goodluck Jonathan à la présidentielle de février 2015. Félix Yepassis Zembro.
L'ancien général Muhammadu Buhari, âgé de 71 ans, avait dirigé une junte militaire entre 1983 et 1985. Il en sera à sa quatrième candidature à la présidentielle. Il a remporté les primaires du Congrès progressiste, loin devant l'ancien vice-président Atiku Abubakar. M. Buhari, qui s'était forgé une réputation d'incorruptible, a affirmé que la corruption et l'insécurité seront ses deux combats prioritaires. Dans le même temps, le Parti démocratique populaire au pouvoir a fini son congrès à Abuja en ratifiant la candidature du président sortant Goodluck Jonathan, qui avait battu Mohamed Buhari en 2011. Cette défaite d'un musulman du Nord face à un chrétien du Sud avait entraîné des violences qui avaient fait un millier de morts. Hier, un double attentat dans la ville de Jos, dans l'état du Plateau, a fait 31 morts. Avant-hier, 4 personnes ont été tuées par 2 femmes kamikazes dans un marché de Kano. Des attaques qui portent la marque de Boko Haram, qui contrôle des pans entiers dans le nord-est du pays.
La détérioration de la situation en Libye menace la stabilité des pays du Sahel. C'est ce qu'a affirmé l'émissaire spécial des Nations Unies pour le Sahel, les précisions de Lionel Gaïma.
Hirut Ghebreselassie s'adressait au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon l'AFP, elle a déclaré que si la situation en Libye n'est pas maîtrisée, de nombreux pays de la région pourraient être déstabilisés dans un proche avenir. Elle est inquiétée des allégations concernant des camps d'entraînement mis en place par le groupe État islamique en Libye. Le pays est dirigé par 2 gouvernements et 2 parlements qui se disputent le pouvoir par des milices interposées. Elle a estimé que 20 000 armes à feu venant de Libye étaient passées au Sahel et que près de 18 tonnes de cocaïne transitent par cette région qui est déjà très affectée par les exactions de Boko Haram au Nigeria et les crises dans le nord du Mali et en Centrafrique. L'Éthiopienne Hirut Ghebreselassie a été nommée en mai dernier pour succéder à l'ancien chef du gouvernement italien Romano Prodi.
Les électeurs mauriciens ont rejeté une initiative visant à renforcer les pouvoirs présidentiels. Ils ont largement voté en faveur de la coalition de l'ancien président Anero Diagnot, qui avait battu campagne contre la réforme. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le premier ministre sortant Navin Chandra Ramgoolam a concédé la défaite hier, notant dans sa déclaration que les élections de mercredi se sont déroulées dans le respect de la démocratie. Les résultats partiels ont accordé une nette avance à la coalition Le Pep, menée par Jagnot, qui deviendra le prochain premier ministre. Le projet de Seconde République prévoyait d'amender la Constitution pour renforcer les pouvoirs du président de la République, poste honorifique, et faire élire ce dernier au suffrage universel direct plutôt que par l'Assemblée. Le peuple a senti le danger qui le menaçait à travers la Deuxième République, a déclaré M. Jagnot, que cite l'AFP. La défaite est d'autant plus cuisante pour le premier ministre sortant Navin Chandra Ramgoolam qu'il perd la majorité absolue qu'il avait au sein de l'Assemblée sortante, de même que le siège de député qu'il occupait depuis plus de 20 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Polémique sur la torture utilisée par la CIA, le directeur de l'agence américaine de renseignement, John Brennan, a reconnu hier que certains de ses agents avaient utilisé des méthodes d'interrogatoire répugnantes après le 11 septembre 2001. Monsieur Brennan a jugé impossible de dire si la torture avait été utile pour obtenir des informations. Nicolas Pineau.
Oui, lors de son point de presse, le directeur de la CIA a refusé d'utiliser le mot « torture ». Il a pourtant estimé que l'agence américaine, à de nombreux égards, avait navigué en terrain inconnu après les attentats du 11 septembre 2001. Concernant les prisons secrètes et la torture utilisée, John Brennan affirme que les agents de la CIA n'étaient pas préparés. « Nous avions peu d'expérience dans la détention de prisonniers et peu d'agents avaient été formés aux interrogatoires », a reconnu cet ancien espion. Après la publication mardi d'un rapport parlementaire accablant pour son agence, M. Brennan a souligné que la CIA avait entrepris de nombreuses réformes pour éviter que ces dérives ne se reproduisent. Il a cependant contesté l'idée avancée lors de l'enquête sénatoriale qui a provoqué une onde de choc à travers le monde, selon laquelle l'agence aurait trompé le public et les responsables politiques américains. Barack Obama, qui a mis fin à ce programme dès son arrivée à la Maison-Blanche en 2009, avait publiquement jugé les méthodes utilisées contre les détenus comme de la torture et contraires aux valeurs des États-Unis.
Les parlementaires américains viennent de franchir la première étape vers l'octroi d'une autorisation formelle au président Barack Obama pour la campagne actuelle contre les combattants du groupe État islamique en Irak et en Syrie. La Commission des affaires étrangères du Sénat a en effet approuvé une autorisation pour l'utilisation de la force militaire, un document qui n'a virtuellement aucune chance d'être adopté par le Congrès actuel, mais pourrait servir de base aux délibérations de l'année prochaine. La campagne aérienne menée par les États-Unis contre les extrémistes sunnites dure depuis des mois.
Le document adopté hier donne au président une autorisation de 3 ans qui stipule qu'il ne devrait pas y avoir d'opération de combat au sol pour les Américains. Tous les membres démocrates de la commission sénatoriale ont voté pour et tous leurs collègues républicains contre. 2 jours avant le vote, le secrétaire d'État américain John Kerry avait plaidé pour une autorisation officielle tout en précisant qu'il ne faudrait pas en adopter une qui exclut les opérations terrestres au cas où les circonstances le dicteraient. Il appartiendra probablement au prochain Congrès de trancher et ces 2 chambres seront contrôlées par les Républicains à partir de janvier.
La branche d'Al-Qaïda au Yémen annonce avoir lancé une attaque à la roquette hier contre une base aérienne utilisée par les États-Unis. Selon les officiels yéménites qui ont confirmé la nouvelle, il s'agit de la base d'Al-Anad dans la province méridionale de Lahej. Un porte-parole de l'ambassade américaine au Yémen a dit que l'attaque n'a pas fait de victimes et qu'aucun membre du personnel militaire américain n'a été blessé. Cette semaine, Al-Qaïda avait revendiqué 2 attentats suicides à la voiture piégée qui avait tué 7 soldats yéménites. Le groupe extrémiste avait également lundi soir tendu une embuscade sur une autre installation militaire dans la même province d'Adramout, tuant 2 autres soldats.
Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, exhorte la Russie à retirer ses troupes de l'est de son pays. Il a lancé son appel au début d'une visite de 3 jours en Australie. Selon M. Poroshenko, si la Russie ferme ses frontières avec l'Ukraine, il y aura en quelques semaines la paix et la stabilité. Kiev a accusé à plusieurs reprises Moscou de fournir armes et soldats à la rébellion antigouvernementale dans l'est, ce que la Russie a toujours démenti.
Multiplication des protestations de l'opposition en Haïti pour réclamer la démission du président Michel Martelly. Ces manifestations ont été provoquées par un rapport d'une commission présidentielle demandant au premier ministre Laurent Lamothe de démissionner en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de consensus national. La commission a également préconisé la démission avant Noël du président de la Cour suprême et celle des membres du Conseil électoral provisoire d'Haïti. M. Martelly doit s'adresser à la nation aujourd'hui pour dire s'il va ou non appliquer les recommandations de la commission créée le 28 novembre dernier pour sortir de l'impasse qui a retardé la tenue des élections législatives et municipales. Ici aux États-Unis, adoption hier à la dernière minute par le Congrès d'une mesure visant à financer pendant 2 jours le gouvernement fédéral, évitant ainsi de justesse une fermeture partielle du gouvernement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et maintenant, la Minute Éco pour tout savoir sur l'actualité économique en Afrique. Pour en parler ce matin dans ce studio, Nicolas Pinault et Morgane Guirien.
Vers une possible sortie de crise au Gabon dans le conflit qui oppose les syndicats du secteur pétrolier au gouvernement.
Et oui, réunion en cours entre les deux parties alors qu'on constate à Libreville et à Port-Gentil des pénuries de carburant. Comme en 2011 et 2013, l'ONEP dénonce la surabondance des travailleurs étrangers dans le secteur au détriment des Gabonais. Guy Roger Aura Reteno est le secrétaire général de l'ONEP à Port-Gentil.
Côté de l'administration du travail, il n'y a pas un suivi régulier de cette situation, la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours en train de revenir et rappeler l'administration ses obligations de faire respecter les dispositions en matière de flux de main-d'œuvre étrangère.
Important don de l'Arabie Saoudite pour lutter contre le virus Ebola.
35 millions de dollars donnés par le roi Abdullah pour aider les pays d'Afrique de l'Ouest dans leur lutte contre la maladie. Le président de la Banque islamique de développement qui exécute ce programme a indiqué que les fonds serviront par exemple à fournir des capteurs thermiques aux écoles, aéroports, gares ferroviaires et stations de bus. Mise en place également de 3 centres médicaux en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria.
Les ventes de smartphones dans le monde ont dépassé pour la première fois celles de téléphones portables en 2013.
Selon un rapport de l'OCDE, le haut débit sur les mobiles est désormais largement diffusé dans bon nombre de pays en développement. En Afrique subsaharienne, les abonnements sont ainsi passés de 14 millions en 2010 à 117 millions en 2013.
Les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Quelques résultats de la 6e journée de la Ligue Europa, jouée hier soir.
Oui, dans le groupe A, le Borussia Mönchengladbach a battu 3-0 le FC Zurich, défaite 2-0 d'Apollon Limassol face au Villarreal. Dans le groupe B, le FC Copenhague a été laminé par Torino 5-1 et victoire de Bruges face à Helsinki 2-1. Dans le groupe C, match nul entre le Partizan Belgrade et Asteras Tripoli, 0-0, 1-0 pour le Besiktas contre Tottenham Hotspur. Dans le groupe D, lourde défaite du FC Astra Giurgiu 5-1 face à Red Bulls Salzbourg. Le Dynamo Zagreb a lui battu 4-3 le Celtic de Glasgow. Dans le groupe E, le PSV Eindhoven est tombé face au Dynamo Moscou 1-0. Et puis enfin, match nul, 1-1 entre le Panathinaikos d'Athènes et Estoril.
En athlétisme, scandale du dopage bien plus grand qu'on ne le sait.
Oui, le scandale révélé le 3 décembre par un documentaire allemand qui ciblait la Russie. C'est du moins ce que croit savoir le quotidien britannique The Telegraph sur la base de documents non publiés utilisés par la télévision germanique. Selon The Telegraph, qui ne cite aucun nom, 225 athlètes de 39 pays sont concernés par des valeurs sanguines douteuses mesurées avant 2009. Selon l'AFP, parmi ces athlètes figurent 5 Français, 3 Britanniques, 25 Kenyans et donc 58 Russes, mais surtout 3 champions olympiques de 2012 dont la nationalité n'a pas été révélée. Et enfin Idrissa, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Un résultat à signaler, Oklahoma City a battu les Cleveland Cavaliers de LeBron James, 103-94, sans LeBron. En effet, la grande vedette de la NBA n'a pas joué à cause d'un problème de genou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La présidentielle nigériane de février 2015 mettra aux prises le président Goodluck Jonathan et le général à la retraite Muhammadu Buhari. Âgé de 71 ans, ce dernier a remporté hier les élections primaires du parti progressiste, principal parti d'opposition. Il avait dirigé le Nigeria entre 1983 et 1985. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Buhari de l'université de Kebbi, près d'Abuja. Il revient tout d'abord sur le passage du général à la tête du pays.
Il avait bien gouverné le pays, il avait essayé de s'ouvrir pour incarner l'esprit de discipline au sein de la population nigériane et puis il avait bien géré l'économie du pays. Donc, sur ce plan-là, Buhari est bien perçu par la population.
Le président Goodluck Jonathan avait déjà gagné en 2011 face au général retraité Buhari. Pourquoi ne gagnerait-il pas cette fois-ci?
Maintenant, le parti du président Goodluck Jonathan est divisé. Donc, il n'a plus le support de la vaste majorité de ses anciens combattants de guerre, comme l'ex-président Obasanjo et plusieurs d'autres. Deuxièmement, en 2011, il y avait plusieurs partis politiques qui ont contesté les élections. Et maintenant, c'est une face-à-face entre deux puissances politiques au Nigeria, c'est-à-dire le parti au pouvoir et le APC, qui est le parti d'opposition majoritaire au Nigeria. Donc, cette fois-ci, l'opposition peut le remporter s'il n'y a pas de tripage électoral.
On ne peut s'empêcher de noter que M. Buhari est du Nord et M. Jonathan du Sud. Va-t-on assister à une polarisation de l'électorat en 2015?
Oui, on ne peut pas écarter cette hypothèse parce que le Nigeria est toujours comme ça, mais cette fois-ci aussi, il faut le souligner, le Nigeria souffre avec la chute du pétrole et puis le naira, qui est la monnaie nationale, ne vaut plus rien. Donc les gens veulent vraiment un changement au sein de la direction du pays, vraiment.
On sait que la situation dans le nord-est préoccupe beaucoup au Nigeria avec les attaques de Boko Haram. Quel sera le poids de cette crise dans ces élections de 2015?
Avec cette insécurité qui règne au nord, on commence à soupçonner si vraiment la classe dirigeante actuelle n'est pas derrière ce qui se passe au nord du Nigeria. Avec les filles qui ont été enlevées à Chibok, là, ça fait plus de 5 mois maintenant qu'on n'a pu rien faire pour assurer leur libération. Donc, avec les attaques qui ont eu récemment à Kano, etc., etc., le nordiste, quoi que, avec l'arrivée au pouvoir de notre parti politique, la situation peut vraiment changer.
Le professeur Ali Buhari de l'université de Kebbi, près d'Abuja. Au Mali, le dernier otage français, Serge Lazarevitch, a été échangé contre 4 djihadistes, dont Mohamed Ali Ag Wadoussen. Il avait été arrêté à Gao fin 2011, accusé d'être l'organisateur de l'enlèvement à Ombori de Serge Lazarevitch et de son compagnon Philippe Verdon. Le 16 juin 2014, Ag Wadoussen, en tentant de s'évader de prison, a abattu l'adjudant Kola Sofara. Sa famille s'est sentie foudroyée par l'annonce de la nouvelle de cet échange. Idriss Fall a recueilli la réaction de son frère Sidi Sofara à Bamako.
L'annonce de la nouvelle, j'ai été foudroyé d'un sentiment d'indignation et de désarroi, un sentiment de stupéfaction, vraiment. Je n'aurais jamais imaginé que mon frère, mon petit frère de même père, même mère, qui a été froidement abattu par un criminel, il a fallu beaucoup de ressaisissement, parce qu'on est musulman aussi, il faut se ressaisir, pour que je puisse résister. Mais Dieu garantit, on a pu résister depuis du mois de juin à maintenant, on a pu consommer. Il a laissé sa femme, ses enfants, tout jeune, le plus âgé 12 ans, le plus petit une fille, 6 ans et demi. Donc c'est très situable. J'ai engagé une procédure depuis ce jour, une requête provisoire au niveau que j'ai adressé au ministre à travers un avocat. Ensuite, j'ai saisi la MDH pour rendre justice, que le type soit jugé et condamné. Il ne faudrait pas que ce soit dans cette histoire restée impunie. Son âme est restée dans l'exercice de ses fonctions par un criminel qui, on ne sait comment il s'est armé. C'est la faute de l'État.
Est-ce que l'État malien, vous pensez qu'il avait le choix?
Bon, ça, j'ignore tout. Vraiment, j'ignore cela. Mais moi, je suis devant un fait accompli. Je constate cette situation. Pour moi, un État aussi fort, un État que celui du Mali, une telle situation ne peut, ne doit pas survenir. Maintenant, pour le reste, vraiment, c'est des commentaires, c'est autre chose. Moi, je constate une situation très déplorable.
Pour rappel, comment votre frère a été tué?
Moi, on m'a annoncé, c'est 29h qu'on m'a annoncé sa mort. Maintenant, les circonstances réelles, jusqu'à ce jour-là, je n'ai pas les circonstances réelles. Effectivement, c'est pour savoir toute la vérité que j'ai intenté le procès et je n'arrive pas à trouver le bout du fil encore.
Et depuis, le gouvernement malien n'a rien fait comme geste en direction de sa famille.
Rien n'a été fait. Bon, moi je n'ai pas vu. Le gouvernement malien n'a pratiquement, à part le jour des offres, le ministre est intervenu socialement, il a pu faire un geste, un appui financier de 500 000 francs.
Sidi Sofara, frère du gardien de prison, tué cette année à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Deux marches contradictoires ont marqué hier à Cotonou les 25 ans de la Constitution du Bénin, celle de la mouvance présidentielle pour soutenir son chef, le docteur Thomas Boni Yayi, et la deuxième plus gigantesque qui rassemblait la quasi-totalité de tous ceux qui s'opposent à sa politique et même ceux qui détiennent des portefeuilles ministériels dans son gouvernement, en l'occurrence la Renaissance du Bénin de l'ancien président béninois et maire de la ville de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous dit notre correspondant sur place, Peggy Ludovic Dagba.
Environ 500 000 personnes, selon les organisateurs, ont répondu à l'appel des leaders de la plateforme des partis politiques qui réclament la tenue effective des élections en République du Bénin pour leur deuxième marche après celle du 29 octobre dernier, de la place Lénine à la place de l'Étoile Rouge. Toujours pour les mêmes exigences, l'organisation des différentes élections et le respect des libertés publiques. Bruno Amoussou de l'Union Faire la Nation et Valentin Aditi Roulet de l'Alliance Nationale pour la Démocratie, l'un des déçus de Boni Yayi à l'Assemblée Nationale.
Ceux qui veulent opposer les communautés, il faut venir des troupes, des gens pour l'affrontement. Nous vous demandons de leur dire à tous ceux qui, dans notre pays, ne veulent pas du dialogue et veulent imposer leur monologue et leur seule pensée, nous vous demandons de leur dire
non. Yayi Boni nous a montré son incapacité notoire de diriger notre pays.
Pour la marche de ce 11 décembre 2014, le Parti du Renouveau démocratique et la RB, la Renaissance du Bénin, parti de l'Union fait la Nation au lendemain de la présidentielle de 2011, ont rejoint les rangs de l'opposition. Leurs leaders ont pris effectivement part à la marche avec à l'arrivée ces messages.
Nous pensons à la Renaissance du Bénin qu'il est grand temps que tous les démocrates de ce pays se donnent la main pour parler d'une seule et même voix. Nous exigeons des élections libres, transparentes, crédibles et dans les plus brefs délais.
Quoi qu'il en soit, et de manière irréversible, les forces politiques et sociales ici présentes ont pris la résolution d'aller comme un seul homme, de rester en bloc pour pouvoir forcer la main au gouvernement et que nous organisions d'abord les élections locales, communales et municipales.
Pendant que l'opposition resserre les rangs, la mouvance présidentielle refuse de subir. Elle a tenu à célébrer à sa façon, ce 11 décembre 2014, les 24 ans de la Constitution béninoise, à travers une marche de soutien au chef de l'État, Christophe Viyingbe, Bernardin Aligbounon et Germain Kadiadodo sont tous membres de la mouvance présidentielle.
33 mesures sociales ont été prises en faveur de la promotion de la jeunesse. Au plan international, vous avez vu, le Bénin a gagné 14 places passant de 94e position à la 80e place au niveau de Transparency International.
25 ans bientôt que nous avons acquis notre liberté, notre démocratie. Nous la fêtons et nous demandons au peuple d'être vigilant, d'être mobilisé derrière le président qui, pendant 10 ans bientôt, a su conserver la paix, l'unité nationale dans ce pays.
La démocratie, nous l'avons dans les veines, dans le sang. C'est pourquoi nous sommes obligés de marcher pour soutenir les actions du chef de l'État, qui est vraiment l'homme qu'il faut pour le Bénin.
Une autre marche de l'opposition est projetée pour les prochains jours. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
À présent, la page musicale de Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Le Bamako Quintet continue à montrer qu'il est possible de faire bouger les lignes à travers un premier album intitulé Bamako Today. Ils étaient en concert au Festival Africolor le 23 novembre dernier et c'était très mouvementé. On les écoute dans Dana.
Ani ningo jubulu ndana mungodo mazoya jaba ya mruki mandana ngabwa te ko ndana mungodo lokulo tiso mali mandana ngabwa ani ningo jubulu ndana mungodo kone wulile so majina fa yule kandome kule kanye dangu ndala kule kamani kule kanye sare kunda dongu kule kamani kule kanye wara kairo dongu kule kamani.
Le Mali reste réputé et admiré pour sa richesse culturelle.
Bien sûr Idrissa, et en particulier sur le plan musical, grâce aux artistes tels qu'Ibrahima Sarr, puis son percussionniste qui maîtrise avec aisance les sons du tambour djembé. Il est l'un des fondateurs de ce groupe, il a parcouru le monde aux côtés de Oumou Sangaré avant de rencontrer Aymeric Kroll qui rôdait aux scènes internationales avec son étrange batterie. Ensemble, ils ont donné naissance au projet Bamako Quintet.
Bamako Quintet dans Ntana. Merci Roger.
C'est moi qui vous dis merci Idrissa. Nos salutations ce matin vont à nos auditeurs de Cocody à Abidjan.
Retrouvez Roger Muntou dans le RM Show à 20h temps universel. Le monde aujourd'hui, Voix de l'Amérique, Véo Afrique, en direct de Washington. Ainsi s'achève cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoubia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.